Conférence en Corée du Sud du 13 au 15 octobre 2023. La manifestation de la vie éternelle. Message 7. Tout d'abord, nous voulons remercier les saints pour tout l'amour que vous nous avez montré à chacun. Nous apprécions vraiment cela et nous remercions le Seigneur. Et nous espérons pouvoir vous rendre cet amour à chacun lorsque vous nous rendrez visite en Californie. D'accord? Vous êtes invités. Oui, vous êtes invités. Louez le Seigneur. Chu Chang m'a dit que quelqu'un a posé une question. Au chapitre 5, dans 1 Jean chapitre 5. En fait, beaucoup de personnes ont posé cette question parce que c'est une question très difficile. Il est difficile d'y répondre. Toutefois, ce n'est pas si compliqué. C'est très simple. Et dans cette parole ici, où est ce verset maintenant? Ah, je ne suis pas au chapitre 5. Désolée, je suis à quelque part d'autre. C'est le problème avec un ordinateur. Il va là où je ne veux pas aller. Alors, 1 Jean 5, verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ou il y a des péchés qui mènent à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Mais il faut prier pour lui. Alors, quel est le péché qui mène à la mort? Chu Chang, que penses-tu? Ne pas croire au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu vas mourir directement si quelqu'un dit « Non, je ne crois pas au Seigneur Jésus, bam, il meurt » Non, ce n'est pas ça. Parce que le Seigneur donne à tous une chance de se repentir. Parce que beaucoup de gens, la première fois que tu leur annonces l'évangile, ils ne croient pas tout de suite, mais peut-être une année plus tard, ils croient au Seigneur. Ainsi, ne pas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et notre Sauveur, ça ne les fera pas mourir. Il y a un péché qui mène à la mort. Et ça, c'est lorsque tu commets ce péché, tu meurs. Tu n'as pas besoin de prier pour eux. Donne-moi un exemple dans le Nouveau Testament. À quel péché peux-tu penser qui a amené à la mort? Romain? Dans Romain? Non, dans Acte. Le roi. Un roi. Tu parles d'un roi, n'est-ce pas? C'est Hérode, oui. Mais c'est un incroyant. Je ne pense pas que quiconque ait prié pour lui. Ainsi, pour nous croyants, Jean parle des croyants. C'est aussi dans Actes. Ananias et Saphira. Exactement. C'est juste. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ils ont vendu leur propriété et ils n'ont donné qu'une partie de l'argent qu'ils avaient gagné. Ils l'ont donné à l'Église. Et ils ont menti au Saint-Esprit parce qu'ils ont dit à Pierre qu'ils avaient tout donné. Ils n'avaient pas besoin de mentir parce que c'était leur propriété. Ils auraient pu donner n'importe quelle partie. Tu n'as pas besoin de mentir en disant que tu donnes tout à Dieu. Ils ne mentaient pas aux hommes, mais au Saint-Esprit. Ainsi Pierre leur a dit, « Est-ce que vous avez tout donné ?» Tout le monde donnait tout ce qu'ils avaient à l'Église. Ananias a dit oui. On a tout donné à l'Église. Que lui est-il arrivé? Il est mort. Peut-être 2 semaines après? 2 mois plus tard? Non. À ce moment précis. Il est mort. Il est tombé mort. Ça, c'était un péché qui mène à la mort. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fait cela qui ne sont pas morts, n'est-ce pas? Mais il faut réaliser que l'Église à Jérusalem est le commencement de l'édification du Seigneur là à Jérusalem. Et Dieu a mis cela comme exemple pour tous les saints, pour ne pas faire cela. C'est sérieux de mentir au Saint-Esprit. Sinon, il y aurait beaucoup de gens qui seraient morts dans l'Église. Tu peux imaginer cela? Il n'y aurait plus personne dans l'Église. Non. Mais c'est Dieu qui détermine. Et dans ce cas précis, c'est vraiment un péché qui mène à la mort. À ce moment-là. Parce que c'était l'inauguration de la première église que Dieu a suscitée à Jérusalem. Et Dieu a donné un exemple pour tout le monde. Ne faites pas cela. Maintenant, donne-moi un autre exemple. Donnez-moi un autre exemple. Est-ce que vous pouvez penser à quelque chose d'autre? Non? Dans 1 Corinthiens, je vous donne un indice. Dans 1 Corinthiens, je vous donne un autre indice. Chapitre 11, je vous donne trop d'indices. Concernant la table du Seigneur, lis-moi. Verset 29. « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. » C'est juste. Parce que ces gens n'honoraient pas. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient à la table du Seigneur. Et dans les premiers temps, ils mélangeaient un souper avec le repas du Seigneur. Ainsi, ils mangeaient du pain, ils amenaient leur propre boisson et même certains étaient ivres. Ils ne discernaient pas la sainte table du Seigneur, qui représente ici le corps de Christ. Et c'est la nouvelle alliance. Certains étaient même ivres. Toi, tu bois un tout petit peu et certains buvaient tellement. Et certains n'avaient rien à manger et certains amenaient leur propre nourriture et mangeaient. Ils ne discernaient pas le corps de Christ à la table. La table du Seigneur est sainte. Mais ces gens à Corinthe, les chrétiens, ne discernaient pas le corps de Christ, de notre bien-aimé Seigneur. Quel est le résultat? Pour cette raison, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Ça dit vraiment qu'ils sont morts, pas juste qu'ils étaient ivres. Pourquoi Jean n'énumère-t-il pas les péchés qui mènent à la mort? Parce qu'il y en a plusieurs qui mènent à la mort. C'est pas que tous ceux qui ont fait la même chose qu'Ananias et Saphira mourront sur le champ. Non. Mais c'est un avertissement. Il y a quelques années, quand j'étais jeune, peut-être comme toi. Peux-tu imaginer que j'étais comme toi? Il y a eu une grande division dans l'Église. C'était si terrible. C'était vraiment terrible. Tu peux imaginer que dans cette division, quelqu'un a même amené un pistolet à la réunion. Pas un pistolet à eau, mais un véritable pistolet. C'était vraiment terrible. Et pendant la réunion, tout d'un coup, quelqu'un a éteint toute la lumière. Il a tourné l'interrupteur complètement. Et puis, il y a eu des ténèbres et les gens se sont mis à crier. Je ne pense pas que tu aies expérimenté cela. C'était horrible. Puis, ceux qui voulaient prendre la salle de réunion, ils ont même demandé à des gens de venir et de garder l'entrée de la salle de réunion. Ils ont donné des photos des anciens. Ainsi, si tu venais, tu étais interdit d'entrer. John Yao, non. Vous n'avez jamais expérimenté cela avant, n'est-ce pas? J'ai expérimenté cela. Je venais de finir le collège en ce temps-là. Peut-être un petit peu plus âgé que toi. Comment vas-tu te sentir dans une telle réunion? Une des personnes, le principal, celui qui était responsable de cela est tombé très malade. Personne ne savait quelle maladie il avait. Aucun docteur n'a pu donner le bon diagnostic. Et peu après, il est mort. Tant de gens ont essayé de prier. Une semaine après, sa femme aussi est tombée malade. Elle est aussi décédée. Si tu fais quelque chose d'aussi sérieux pour abîmer l'œuvre du Seigneur, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui provoquent des divisions. Ils ne sont pas morts. Ça dépend du Seigneur. Ça dépend du sérieux de la chose. Je ne vais pas mourir parce que je ne t'ai pas laissé traduire. Ça dépend du Seigneur. Il est le Seigneur. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à cette division, mais ils ne sont pas morts. Mais le responsable de cela, ainsi, ça dépend du Seigneur. Ainsi, Jean ne dit pas quel péché c'est. Ainsi, je ne peux pas te dire quel est ce péché. Mais il y a un tel péché. Un péché qui mène à la mort. Dans certaines situations, tu n'as pas besoin de prier. Alors maintenant, certains vont se fâcher en disant « Oh quoi, il ne faut pas prier ?» Mais le Seigneur va te dire, il va te donner le discernement. Ainsi, respecter le Seigneur. C'est pourquoi, dans Hébreux 12, à la fin, Dieu dit que le royaume est inébranlable. C'est aussi vraiment sérieux. Et nous devons apprendre à servir Dieu avec piété et avec crainte. Nous devons le servir de manière qu'il lui soit agréable. Avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ne pensez pas que vous pouvez servir Dieu comme vous avez envie. Est-ce que vous vous souvenez des deux fils d'Aaron? Aaron avait 4 fils. Ces 2 premiers, c'était Nadab et Abihu. Ils étaient sacrificateurs. Leur père était souverain sacrificateur, mais les fils étaient sacrificateurs. Ainsi, ils savaient comment servir. N'utilise pas de feu étranger. Ne cours pas juste à l'intérieur et fais comme tu veux. Après avoir reçu une instruction aussi claire du Seigneur, Nadab et Abihu sont entrés d'eux-mêmes. Sans ordre du Seigneur, ils sont entrés et ont commencé à faire quelque chose à l'autel des parfums. Non. Tu dois avoir le feu de l'autel des holocaustes qui est à l'extérieur. Et c'est ce feu-là qu'il faut utiliser pour brûler de l'encens. Sinon, c'est appelé un feu étranger. C'est comme nous, chrétiens, nous faisons beaucoup de choses de nous-mêmes. Oh, faisons ceci, faisons cela. Nous utilisons notre propre force. Et le résultat, c'est le tohu-bohu. Ça cause beaucoup de problèmes. et cela détruit le témoignage du Seigneur. Et qu'est-il arrivé? Dieu a envoyé le feu et les a consumés là, sur place. Ça, c'est un péché qui mène à la mort. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui font quelques fautes. Mais vous savez, ils n'avaient aucune raison de faire cette erreur parce qu'ils savaient exactement ce que Dieu attendait d'eux et ce qu'ils devaient faire. Ça ne veut pas dire que si tu fais une petite erreur, bam, le feu va descendre du ciel et te consumer. Non, Dieu n'est pas un tel Dieu. C'est pourquoi nous devons être prudents et avoir la crainte du Seigneur. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur cette terre, tout ce qu'il a fait, il le recevait du Père. Il a dit, les paroles que je vous ai dites, ce n'est pas moi, ça ne vient pas de moi, mais de mon Père, et il est celui qui parle. Et l'œuvre que je fais juste maintenant, ce n'est pas mon œuvre, c'est le Père qui fait cette œuvre. À la fin, qui reçoit la gloire? Lui, bien sûr. C'est le Père qui reçoit la gloire. Ainsi le Seigneur Jésus dit, le Fils par lui-même ne peut rien faire. Mais nous sommes tous très capables. Nous pouvons servir Dieu et faisons tant de choses sans le Seigneur. À la fin, nous expérimentons non la mort physique, mais la mort spirituelle. Il n'y a pas de vie. C'est très sérieux. Mais nous péchons tous, nous commettons tous des erreurs, nous désobéissons tous à Dieu. Mais tu ne tombes pas mort directement, n'est-ce pas? Non. Parce que ce n'est pas un péché sérieux. Ainsi, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous devons tous servir Dieu d'une manière agréable, qu'il soit agréable, en l'honorant, en le respectant, avec une sainte crainte pieuse. Ainsi, Jean utilise un seul verset pour cela. Ça veut dire que ce n'est pas le fardeau principal de la conférence. Mais c'est toujours bien d'apprendre et de savoir. Parce que nous, chrétiens, sommes très, quoi? On est très présomptueux. Je pense que c'est bien. Toi, tu dis, non, je ne pense pas que ce soit bien, faisons de cette manière. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Peux-tu imaginer que le Fils ne soit pas d'accord avec le Père? Lorsque Jésus était sur cette terre, a-t-il jamais fait quelque chose en désobéissance à Dieu? Non. Il a gardé toutes les paroles de Dieu et tout ce qu'il a fait était selon le temps que Dieu avait décidé et au bon moment. Et si tu lis attentivement l'évangile de Jean, chaque chose importante que le Seigneur Jésus a faite était selon les fêtes, la fête de Pâques, le grand jour de la fête. Au chapitre 7, c'est la fête des tabernacles. Et quand le Seigneur Jésus est-il mort? Il est mort à la fête de Pâques. Il ne pouvait pas dire « Non, non, j'aimerais y aller la semaine prochaine. J'ai quelque chose d'autre à faire. Je dois rendre visite à quelqu'un avant d'aller à la croix. » Non, cela devait être au temps prévu par Dieu, que Dieu avait décidé. Quand Jésus devait-il ressusciter des morts? Pourquoi, 3 jours après, pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu? Oh, je préférais rester encore quelques semaines dans le paradis en Hadès. J'aimerais passer du temps pour parler avec Abraham. Et j'aimerais voir Lazare là. Seigneur, donne-moi encore 2 semaines. Qu'en est-il de cela? Non, pourquoi? Pourquoi pas? Sinon, la vérité dans la Bible ne serait plus là. Il fallait qu'il ressuscite des morts le 3e jour, pas le 5e, pas 2 semaines plus tard. Mais le jour, qu'en est-il de la Pentecôte? Pourquoi est-ce que le Seigneur, après 40 jours, a dit « Je dois partir maintenant, je dois monter ». Pourquoi? Pourquoi si tôt? Les disciples ont dit « Non, 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 reste encore avec nous ». Quelqu'un dirait « Oh non, John, reste encore 2 semaines ». Puis, notre frère Otto viendrait de Utsang et dirait « Reste, reste encore un peu ». Et John dirait « Oui, pourquoi pas ? Je ne dois pas retourner travailler, donc je peux rester. Si tu étais encore au travail, tu serais expédié ton travail. Mais là, tu es libre, donc tu pourrais rester, non? Qu'en est-il si le Seigneur avait dit au Père, « Oh, mes disciples désirent que je reste encore avec eux 2 semaines. » Alors, comment est-ce qu'il pourrait observer la fête de Pentecôte? Est-ce que tu penses que le Seigneur avait le choix? Il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il ressuscite le 3e jour. Et la raison, c'est qu'il est écrit dans les psaumes « Tu ne permettras pas à ton saint de voir la corruption. » S'il était resté plus que 3 jours, son corps aurait vu la corruption, les vers seraient venus et il aurait senti mauvais. Ce n'était pas possible. Ainsi, ne pensez pas que 3 jours veulent dire 24 heures fois 3, c'est-à-dire 72 heures. Non, ce n'est pas le cas. Parce que le Seigneur est mort à la fin du 1er jour, puis il est resté le sabbat, 24 heures, et tôt le matin du 3e jour, il est ressuscité. Donc, ce n'est pas 72 heures. Oui, Dieu aurait pu faire un miracle pour que son corps ne voie pas la corruption. Mais non. Pardonne-moi, Jenny, j'ai encore oublié de te laisser traduire. Ainsi, vous pouvez voir comment le Seigneur a servi Dieu. 100%. Pas selon ses concepts, mais selon la parole de Dieu. Parce que le 50e jour, après être ressuscité des morts, il fallait qu'il déverse le Saint-Esprit pour accomplir la fête de Pentecôte. Est-ce que tu veux servir Dieu? Comment vas-tu le servir? Selon ton horaire, n'est-ce pas? Si tu as envie, tu le sers. Si tu n'as pas envie, tu ne le sers pas. Je n'ai pas le temps. Oh, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Je ne me sens pas bien. Je vais voyager plus tard à Ixan. Désolée, chers frères et sœurs. Je vais rester à la maison encore 2 semaines. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est ainsi que nous servons? Beaucoup de gens disent, « John, tu as besoin de plus de repos. » J'ai besoin de plus de repos? Peut-être, mais Dieu dit non. Va, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais encore prendre 2 semaines de vacances? Je n'ai pas le choix. Comment sers-tu Dieu? Louez le Seigneur. Nous devons apprendre à servir Dieu de manière acceptable, avec crainte. Il est un Dieu, un feu dévorant. Ne pense pas qu'il ne va pas te juger. Peut-être qu'il ne te juge pas aujourd'hui, mais le jour où tu devras rendre compte, il te dira « Pourquoi tu fais cela ?» Peut-être que tu pourras dire à Dieu « J'ai pensé que ça c'était faux. » Ou « Je n'ai pas compris ceci. » Ben, si tu n'as pas compris, pourquoi ne m'as-tu pas posé de questions? Le Seigneur te dira pourquoi. Ainsi, apprenez à servir Dieu de manière agréable. Je ne dis pas que tu vas mourir sur le champ. Non, je ne dis pas ça. Mais il y a certains péchés que Dieu détermine. C'est pourquoi Jean n'a pas dit de quel péché il s'agissait. C'est bien de ne pas savoir. Louez le Seigneur. Ok? Est-ce que cela répond à ta question? Maintenant, on va reprendre le résumé. Et j'espère que vous allez tous réaliser ce que ça signifie de ne pas aimer le monde, n'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai employé un petit peu de temps ce matin, avant, pour vous partager. Parce que c'est très important. N'aimez pas le monde. Maintenant, le point suivant après cela, c'est le point 4. Nous vivons dans la dernière heure, très près de la fin de cet âge. Tous les apôtres, dans le premier siècle, croyaient tous et pensaient que le Seigneur reviendrait pendant leur temps. C'est pourquoi le Seigneur ne leur a pas dit « Je reviendrai dans 2000 ans. » Imagine que tu sois Pierre, Jacques ou Jean. » Elle sonnière dit. « Quand reviens-tu ? » ?»« Oh, pas tout de suite. Je reviendrai dans 2000 ans. » Penses-tu que les apôtres parleraient du retour du Seigneur ? Alors, tu n'aurais rien qui serait mentionné au sujet du retour du Seigneur par les apôtres. Si je te dis, « Oh, je viendrai rendre visite à Ixan dans 20 ans, que penserais-tu ? Est-ce que tu vas y penser « Ah, John vient la semaine prochaine ?» ou la... Non. Tu penserais que je ne viens pas. Si tu me dis que je vais visiter la Californie dans 50 ans, BJ, est-ce que tu l'attendrais ? Dans 50 ans ? Dans 50 ans, tu l'aurais déjà oublié. Tu ne croirais même plus qu'il existe. Le Seigneur leur a dit, seul le Père sait. Et c'est pourquoi tous les apôtres attendaient le retour du Seigneur de leur temps. Ainsi, le retour du Seigneur est une partie très importante des évangiles. Qu'est-ce qui est plus important ? La première venue du Seigneur ou la deuxième ? La seconde. Il est déjà venu la première fois. Et, bien qu'il leur ait dit, quand il venait la première fois, personne ne l'attendait. Même dans Daniel 9, parle des 70 semaines. 70 semaines, c'est 490 ans. Et le Seigneur reviendra. La première fois qu'il est venu, c'était à la fin de la 69e semaine. Ça fait 483 ans. C'est pas étonnant que personne ne l'attendait. Mais Daniel nous a déjà dit quand il venait, quand il viendrait la première fois. 483 ans plus tard, le Messie viendrait. Est-ce que tu vas attendre ? Est-ce que tu l'attendrais ? Même 50 ans, tu n'attends pas. Même 20 ans, tu n'attends pas que Chu Chang vienne. Même 10 ans plus tard, tu ne l'attendrais pas. N'est-ce pas ? Même dans 6 mois, tu ne l'attends pas. Imagine que le Seigneur ait dit 2000 ans. Les apôtres auraient dit, oh, oublie. Mais tous les apôtres pensaient que le Seigneur allait venir de leur temps. Et j'ai toujours dit aux saints, peut-être que tu ne sais pas quand le Seigneur vient, mais tu ne sais pas non plus quand toi, tu vas mourir. Parce que lorsque tu meurs, si tu n'es pas prêt, alors, lorsque tu ressuscites des morts au retour du Seigneur, tu ne seras toujours pas prêt. Il Tu ne peux te préparer pour le retour du Seigneur que maintenant, pendant que tu es vivant. Comme les 5 vierges folles. Lorsqu'elles sont mortes, elles n'avaient pas assez d'huile. Leur vase n'était pas tout à fait vide, mais presque. Il y avait un petit peu d'huile et ce n'était pas suffisant. Lorsqu'elles sont ressuscitées des morts, quand l'époux est venu, il y avait un problème. Je n'ai pas assez d'huile. Qui va te donner de l'huile? Chuchang, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi un peu de ton huile. Que disent les vierges sages? Non, désolé. Si je te donne un peu de mon huile, je n'en aurai pas moi-même assez. Ainsi, il faut être préparé. Que le Seigneur vienne dans 2000 ans ou dans 2 semaines. Il faut être prêt à n'importe quel moment. L'apôtre Jean écrit « Maintenant est la dernière heure ». Il dit « Maintenant, c'est la dernière heure ». Je peux vraiment citer John 2000 ans plus tard en disant « Maintenant, c'est la dernière heure ». Pas l'année passée, pas le mois passé, mais maintenant, c'est la dernière. C'est pas la dernière semaine, c'est pas le dernier jour. Un jour à 24 heures, et la dernière heure, c'est près de minuit. Mais vous et moi ne vivons pas comme si c'était la dernière heure. Tu penses toujours, oh, j'ai le temps. Tu peux penser comme ça, mais c'était comme au temps de Noé. Les gens disaient, oh, Noé dit que la pluie va venir, mais regarde le temps. Regarde. Demande à John Yao, oh, il va faire beau. Il ne pleut pas. Il ne va pas y avoir d'orage, il va y avoir du soleil. Et ils étaient là, mangeant, buvant, se mariant. Et ils travaillaient, ils vendaient, ils achetaient. Et tout d'un coup, la destruction est venue. Le déluge est venu. Aujourd'hui, c'est la même chose, et spécialement maintenant. Je ne veux pas passer de temps pour parler des signes des temps, il y en a tellement. Regardez, même la guerre en Israël, c'est un signe. Bien sûr, en tant que jeune, peut-être que tu ne te préoccupes pas, mais c'est très sérieux. Si tu connais les prophéties de la Bible, tu sauras que le temps est très, très, très proche. Plus proche que nous ne le pensons. C'est pourquoi Jean écrit ici, dans 1 Jean 2, vous pouvez le lire, 1 Jean 2, 18, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et nous savons qu'il y a ces antéchrists. Il y a tant d'antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Des faux prophètes, des faux enseignants. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Il y en a encore plus qu'en ce temps-là. Combien de dénominations y a-t-il en Corée du Sud? Il y en a tellement. Combien? Tellement. Trop, c'est combien? Tu ne peux même pas les compter. Ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de faux enseignants et de faux prophètes qui divisent le peuple de Dieu et qui font ce qu'ils ont envie de faire. Ils détournent le peuple de Dieu. Ils l'égarent. Jacques dit la même chose, Pierre dit la même chose, Paul dit la même chose. Même le Seigneur Jésus a dit la même chose, parlant des faux prophètes. Le temps est mûr pour que le Seigneur revienne. J'ai écrit ici, vous pouvez regarder le résumé vous-même, les signes des temps. Il y a deux catégories, le monde politique, l'injustice. Si tu vis en Amérique aujourd'hui, c'est exactement ce que Paul écrit dans 2 Thessaloniciens 2. Que l'injustice s'accroîtra. Vous pouvez lire tout le chapitre. Et la bête qui vient est appelée l'homme d'iniquité. Si vous vivez aujourd'hui aux États-Unis, vous pouvez voir que l'injustice est horrible. Je ne parle pas de la mafia. Je ne parle pas de l'antifa. Je ne parle pas des criminels, là. Je parle du gouvernement. Si le gouvernement est injuste, tous les États-Unis seront injustes. Vous ne pouvez pas expérimenter cela ici. Il y a un gang de 20 personnes qui entrent dans un magasin, remplissent leurs sacs et s'en vont. Et les gardes sont là et regardent, ils ne peuvent rien faire. Avez-vous déjà expérimenté ça à Abidjan? À Aixan? Ou peut-être à Chuchang? Il y a tant de boutiques à Los Angeles, San Francisco, New York. Ils ne peuvent pas survivre. Et ils le persécutent, ils poursuivent les hommes de bien. Si tu dis la vérité, ils viennent et ils t'emprisonnent. Mais si tu es un voleur, tu as volé dans une banque ou une boutique, tu vas faire tes courses sans payer. On peut tous aller faire des courses sans payer. Je n'ai même pas un dollar, pas de problème. Tu entres, tu prends et tu t'en vas. Tu peux juste prendre un duvet et t'en aller. Est-ce que tu aimes aller faire des courses? Viens, en Californie, c'est gratuit. C'est même pas que tu voles, mais maintenant, c'est un jeu de mots en anglais, je ne peux pas traduire. C'est une place horrible. Et ça sent pire. C'est un signe des temps. C'est la fin de la démocratie. Selon Daniel au chapitre 2, c'est la fin de la démocratie. Pourquoi ça se passe en Amérique? Parce que la démocratie a commencé en Amérique. Il y a 250 ans. Et c'est fini. Tous les empires arrivent à une fin. L'empire babylonien s'est terminé. L'empire perse, l'empire grec a été terminé. L'empire romain aussi. Et à la fin de l'empire romain, les deux grandes jambes, c'est la démocratie. C'est de l'argile et du fer mêlés ensemble. L'Empire romain, c'est l'empire de fer. Et ça s'est étendu sur tant de siècles. Ce sont des jambes très longues. Et à la fin, les pieds sont un mélange d'argile et de fer. Ça veut dire, c'est la démocratie. La puissance du peuple. Nous en avons parlé déjà, vous savez cela. La démocratie, ça signifie démos et kratos, le pouvoir du peuple. C'est la démocratie. Après 250 ans, c'est fini. Que tu le veuilles ou pas, désolé. Ainsi, si ce pays se termine, ne pensez pas que vous allez avoir un bon temps ici, en Corée du Sud. Et ne pensez pas qu'en Allemagne, vous aurez un bon moment. Ça descend aussi. Ça se dégrade aussi. Ainsi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de signes, mais c'est bon. Je ne veux pas entrer là-dedans. Parce que nous n'avons pas le temps. Et ce n'est peut-être pas nécessaire juste maintenant. Puis, dans le monde religieux, Pierre et Jacques parlent des faux prophètes et des faux enseignants. Mais Jean le dit d'une manière différente. Comment les appelle-t-il? Des antéchrists. Quand on parle des antéchrists, à quoi penses-tu? Tu penses à la bête qui va venir. Mais Jean dit qu'il y a déjà beaucoup d'antéchrists et qu'il y a l'esprit de l'antéchrist. Ils parlent de Christ, mais ils sont antéchrists. Ce sont des faux prophètes. Le faux prophète ne va pas venir vers toi en disant « BJ, je suis contre Christ ». Est-ce que tu écouterais un pasteur qui dirait « Je suis un antéchrist » ? Tous les pasteurs vont te dire de croire en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Mais quel est le résultat ? L'Église catholique dit qu'ils croient en Christ, mais ils sont anti-Christ. C'est la plus grande Église. Il y a plus de milliards de gens. sont-ils à Christ? Sont-ils des chrétiens ou sont-ils anti-chrétiens, anti-Christ? Ils croient au Seigneur Jésus. Mais quand tu pries à la Mère de Dieu, n'est-ce pas? À Marie. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais après tu dois souffrir toi-même. Tu dois faire la passion. Vous êtes dans un pays catholique, n'est-ce pas, ici? Sont-ils pour Christ ou sont-ils contre Christ? Dites-moi. Ils sont contre. Regarde le pape qui offre des bébés à Satan. Sont-ils pour Christ ou sont-ils contre Christ? Ça, c'est l'aspect religieux du monde pour tromper les gens. Les gens religieux te disent, viens, je te montre le chemin pour aller à Christ. En fait, ils sont contre Christ. Alors que vas-tu faire? Je pense que Jean est très hardi. Il dit, ce sont des antéchrists. As-tu la hardiesse de dire qu'ils sont des antéchrists? Ils peuvent venir pour en venir et te causer des problèmes. Ainsi, le plein développement de Babylone, c'est beaucoup d'antéchrists dans l'Apocalypse. Ils sont tous dans une seule catégorie, appelée Babylone la Grande, la mère des prostituées. Leur but, c'est de mentir, de tromper et de détruire. C'est pourquoi, à la fin de 1 Jean, au chapitre 4, il est dit « Testez les esprits, d'éprouver les esprits, éprouver. Ne croyez pas tout, n'acceptez pas tout. » Parce qu'ils utilisent la Bible. Bien sûr, ils vont employer la Bible. Mais Satan a aussi utilisé la Bible. Vous pensez que Satan ne connaît pas la Bible? Il la connaît peut-être mieux que toi et moi. Mais loué le Seigneur, nous avons l'onction en nous. C'est pourquoi il faut connaître cette onction intérieure. Ne croyez pas ce que je dis. Vous devez croire l'onction intérieure. Sinon, vous ne serez pas. Vous serez trompé. Ne pense pas être si intelligent. Non. Adam et Ève n'étaient pas si malins. Sinon, ils n'auraient pas été trompés par le serpent. Ils n'étaient pas si intelligents. Et après avoir été trompés, et nous sommes les descendants d'Adam et Ève, vous pensez que nous sommes plus intelligents qu'eux? Mais maintenant, nous avons l'Esprit en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. L'onction est en nous. Dites au Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Éclaire-moi dans ta parole. Renouvelle ma pensée. Enseigne-moi. Je ne peux pas vous enseigner, mais l'onction en vous vous enseignera toutes choses. C'est pourquoi le dernier point que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Soyez comme les Béréens dans Actes 17. Soyez des chrétiens nobles. Sois un chrétien noble. N'accepte pas tout. Même Paul a donné un message. Il leur a enseigné, il leur a annoncé l'évangile. Ils sont allés et ont vérifié. Ils ont lu les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Nous devons tous être de tels chrétiens qui ont un esprit de discernement. Et ça, c'est par l'onction qui vient du Saint, de celui qui est Saint. L'onction ne va jamais te mentir. Si tu ne connais pas l'onction, tu peux facilement être trompé. J'ai vu cela durant les 60 dernières années. Je ne veux pas être trompée. Et je ne veux pas que d'autres soient trompés. Je veux savoir exactement ce que Dieu veut. Et vous devez tous être ainsi. Il y a tant de gens qui sont des trompeurs. Dans ces méga-églises, regardez. Ils disent, pourquoi si vous avez la vérité, vous n'êtes que peu? Le Seigneur lui-même n'avait que peu de gens. Parce que la majorité des gens aiment les ténèbres plus que la lumière. Peut-être qu'on arrive à finir le résumé. Le dernier point, c'est d'être comme lui, comme le Seigneur. Ne soyez pas un pharisien ou un scribe. Mais soyez transformés, soyez comme le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. Il y a tant de versets ici, mais lisons Romains 8, 29. Romains 8, verset 29. C'est le plan de Dieu, son dessein. Verset 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il ne nous a pas seulement choisis avant la fondation du monde, mais le but, la destinée, c'est à la fin. Que tu sois pleinement conforme à l'image du Fils premier-né de Dieu. Sa résurrection est en toi. Il est en toi. Est-ce que Christ est en toi? Vijay, es-tu sûr de cela? Penses-tu que le Seigneur ne vive pas en toi? Bien sûr. Mais que fait-il en toi? Rien? Que fait-il? Juste sauver des problèmes? De t'aider à être un bon architecte? Alors qu'est-ce qu'il fait en toi? Il te rend conforme à son image. Parce que Jean nous dit que nous ne sommes pas encore pleinement comme lui. Alors, que fait Christ en toi? Pourquoi est-ce qu'il vit en toi? Pour t'aider dans les difficultés? Non. Bien sûr, il t'aide aussi. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais ce n'est pas le but. Parfois, d'avoir des problèmes, c'est bien parce que ça t'aide à te tourner vers lui. Mais le but, c'est de te rendre conforme à son image. C'est très significatif ici. Il dit d'être semblable à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né. Il n'est pas dit en tant que fils unique, mais fils premier-né des morts. Dans son humanité. Yu-Chang, quelle est la différence entre le fils unique de Dieu et le premier-né, le fils premier-né de Dieu? Quelle est la différence? Y as-tu déjà pensé? Le premier-né, il a plusieurs frères. Et à part cela, quelle est la différence? Nous sommes aussi des fils. Alors tu es Dieu? Non! Est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il est Dieu? Oui. Alors pourquoi toi, en tant que Fils de Dieu, tu n'es pas Dieu? Ah, je t'ai attrapé. En tant que fils unique de Dieu, il était Dieu au tout début. Jean dit au début, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Mais pour ton salut, Jésus-Christ est venu. C'est Dieu qui est venu en tant qu'homme. Ainsi, il est les deux. Fils de Dieu et fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, le Seigneur Jésus est un vrai homme. Il est les deux. Il a le statut humain. Alors, le dessein de Dieu était que ce Fils de l'homme, Jésus, par la mort et la résurrection, il a été désigné Fils de Dieu en puissance par l'Esprit, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Puisqu'on est dans Romains, lisons Romains 1. Versets 3 et 4. Il conserve son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, toi, tu es un fils de Dieu, pas selon Jésus-Christ en tant que le fils unique de Dieu, en tant que Dieu, mais tu es fils de Dieu en tant, selon l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ qui a passé par la mort et la résurrection et qui a été déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jenny a compris. Mais une autre question. Jésus, en tant que fils unique de Dieu, quand est-il devenu ce fils unique? Au début, il était avec Dieu et il était Dieu. Au commencement. C'est pourquoi Dieu est trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le même Dieu, un seul Dieu. Philippiens 2 dit qu'il était Dieu, mais qu'il a mis de côté sa divinité, sa gloire, pour devenir un homme maintenant. En tant qu'homme, quand est-il devenu le fils premier-né de Dieu? Où est-ce écrit? Quel verset vas-tu utiliser pour me convaincre? Le livre d'Actes? Je vais te donner un indice. David, aide-le. Acte 2? Non. Qui va t'aider? Dans les psaumes aussi, il est dit. Mais si tu vas dans les actes, dans les psaumes, c'est trop loin en arrière. Va dans le Nouveau Testament, mais où? Acte 3, verset 3. Non. Acte 13, 33. Acte 13, 33. Très bien. Maintenant, dis-moi ce qu'il a dit. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quel est aujourd'hui? C'est quel aujourd'hui? Le jour de la résurrection. Colossiens dit, lui, il est le premier-né parmi les morts. Des morts. C'est le premier-né des morts. Il faut mettre tous ces versets ensemble. Et alors, tu as une image claire. Juste, frère Pâques, il y a frère Pâques là. Es-tu au clair? Es-tu au clair? Amen. Minjing, est-ce que c'est clair? Bien. On arrive au bout du temps qui nous est accordé. C'est pourquoi nous avons encore besoin d'être transformés. Il est notre frère. Ne dites pas, Dieu est notre frère. Non, Dieu n'est pas ton frère. Tu peux dire que Dieu est ton père. Mais Jésus-Christ, en tant que premier-né des morts, est ton frère. C'est la raison pour laquelle le jour de la résurrection, il n'y avait que Marie qui était là, qui a vu Jésus en résurrection. Le Seigneur lui a dit, « Va et dis à mes frères. » Je vais vers mon Père, qui est maintenant aussi votre Père, mon Dieu, qui est maintenant aussi votre Dieu. Louez le Seigneur. Merci pour votre patience.